Les informations sont présentées par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. En Tanzanie, on atteint maintenant 151 morts victimes du naufrage d'un ferry jeudi dans le sud du lac Victoria. Alors que les opérations de secours se poursuivent trois jours après la catastrophe, le président tanzanien John Magufuli a décrété hier quatre jours de deuil national. Il a pointé aussi une surcharge de l'embarcation et ordonné l'arrestation des opérateurs du ferry. Le pape François arrive à Vilnius ce matin, un voyage de 4 jours à travers les Pays-Baltes, qui commence donc par la Lituanie avant la Lettonie et l'Estonie. Une invitation pour commémorer le centenaire de leur indépendance. Le pape visitera en particulier l'ancien siège du KGB à Vilnius, témoin de 50 ans d'occupation soviétique. L'ombre de la Russie, l'ex-puissance occupante des Pays-Baltes, plane sur ce voyage, alors que le pape François n'est toujours pas le bienvenu à Moscou, Maltina Berti.
Le pape contourne la Russie mais ne parvient pas à y mettre le pied. Le voyage n'est pas à l'ordre du jour, confirment les proches de ce dossier au Vatican. Même si les relations ont connu un dégel sous François, l'an dernier son secrétaire d'État, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, avait été reçu par Vladimir Poutine et lui-même en 2016 avait rencontré à Cuba, en terrain neutre, le patriarche de Moscou Kirill. Une rencontre qui, de l'avis général, a facilité l'affirmation des catholiques en Russie. Il s'agit de ne pas détériorer ce lien fragile. Le pape ne devrait pas aborder le conflit ukrainien par exemple, mais se concentrer sur les défis communs. Le détournement de la société, de l'Église, la sécularisation et la nécessité d'œuvrer à de bonnes relations entre catholiques et orthodoxes. Si l'expansionnisme russe devait figurer au menu des discussions, ce serait du fait des dirigeants des pays baltes qui expriment des craintes nettes à ce sujet et entendent être défendus par l'Union européenne. Une visite du pape est si rare, la dernière remonte à 1993 sous Jean-Paul II, qu'ils saisiront probablement cette occasion.
Mathilde Imberti. En Iran, plusieurs morts et une vingtaine de blessés dans une attaque terroriste selon la télévision publique iranienne. Alors que la situation reste très confuse sur place, selon les premiers éléments, des hommes armés auraient ouvert le feu au cours d'un défilé militaire ce matin dans la ville d'Avaz, dans le sud-ouest du pays. Aux États-Unis, de nouvelles révélations graves du New York Times. Le journal affirme que le numéro 2 du ministère de la Justice a envisagé l'an dernier d'écarter Donald Trump du pouvoir. Selon le quotidien, qui s'appuie sur plusieurs sources anonymes, Rod Rosenstein aurait proposé d'enregistrer le président à son insu pour rendre compte du chaos ambiant à la Maison-Blanche et d'utiliser ensuite le 25e amendement pour le mettre à l'écart. Nous travaillons à un bon accord, il est possible et j'y crois, ensuite je ne peux pas exclure qu'on ne se mette pas d'accord à la fin, a déclaré ce matin Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes ce matin, à propos du constat d'échec dressé hier par Theresa May, qui accuse l'Union européenne de mettre son pays dans l'impasse, dans la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Au Portugal, les habitants de Lisbonne et de Porto ont de plus en plus de mal à trouver un logement après l'explosion des prix de l'immobilier. Et une manifestation est prévue cet après-midi avec un mot d'ordre, le droit au logement. Alors quelles sont les causes de cette crise? Les explications d'Élise Delève.
Lisbonne et Porto, deux villes au doux climat, au bord de l'Atlantique, qui attirent de nombreux étrangers. Parmi eux, beaucoup de Français, plus de 15 000 résidents déclarés l'année dernière, trois fois plus qu'en 2008. Mais aussi des Brésiliens et des Britanniques, des expatriés venus profiter des avantages fiscaux offerts par le gouvernement portugais. Luis Felipe González Mendes est géographe, spécialiste de la gentrification. Il évoque un embourgeoisement agressif du Portugal.
Après la crise économique de 2008, le Portugal est entré dans une période d'austérité. Le gouvernement a lancé de nombreuses mesures pour surmonter cette situation. Cela a attiré les investisseurs, surtout des étrangers. Ils ont injecté de l'argent dans l'immobilier. Depuis, les prix augmentent et les gens ne peuvent plus payer les loyers. Les gens sont expulsés, mais pas seulement ceux qui vivent dans la précarité, les classes moyennes aussi et les personnes âgées. Ces habitants sont expulsés des centres et vont vivre en banlieue.
Comme ailleurs dans le monde, l'autre raison de la gentrification des villes portugaises, c'est le tourisme et la location de courte durée type Airbnb. Rien que cet été, 1,5 million de visiteurs ont dormi dans un appartement loué sur la plateforme, c'est 14% de plus que l'année dernière. Une aubaine pour les propriétaires portugais qui peuvent louer un appartement 3000 euros par mois au lieu de 500 avec un locataire classique. Dans le centre historique de Lisbonne, un tiers des habitations sert à la location touristique. Ces locations sont soumises à des contraintes depuis quelques mois, comme à Paris et Berlin. Pourtant, Lisbonne et Porto s'en passeraient bien. Sur les 6 premiers mois de l'année, Airbnb leur a versé 3,5 millions d'euros de taxes de séjour.
Élise Delève pour France Culture. Une drôle de pêche en mer aujourd'hui entre Antibes et Cannes. 25 000 pneus usagés sont retirés de l'eau dans le golfe Juan. Ils avaient été immergés dans les années 80, exprès pour faire un récif naturel, un récif artificiel, pardon. Mais aujourd'hui, il faut les enlever. La pollution s'étend. Première opération du genre en France. Elle est menée par l'Agence française pour la biodiversité. Les opérations ont commencé ce matin, Sandy Dauphin.
À 800 mètres au large sur une mer d'huile, parmi les yachts et les voiliers, une barge équipée d'une grue remonte des chapelets de vieux pneus dégoulinants.
Les 20 mètres de bout de blanc tu attaches sur les paquets de pneus.
Devant deux écrans, Marc Capard supervise l'opération en contact permanent avec les 8 plongeurs qui se relaient sous l'eau.
Tout ce qui tenait les pneus, les morceaux, les pièces métalliques ont rouillé. Ça ressemble à une pelote d'aiguille au fond et les pneus se sont éparpillés.
Ces pneus de voiture et de camion dorment au fond de l'eau depuis près de 40 ans. À l'époque, ce type de récif artificiel était considéré comme novateur. Christophe Serre, référent milieu marin au Conseil général des Alpes-Maritimes.
Il faut se remettre dans le contexte. Fin des années 79, on ne connaissait rien sur les récifs artificiels. On avait ces fonds qui étaient non valorisés, une diminution de la ressource halieutique, donc il fallait aider les pêcheurs.
Mais ce récif artificiel de pneus n'a pas fait ses preuves. Pire, aujourd'hui, il menace ce site protégé dans la baie d'Antibes. Christophe Aubel, directeur général de l'Agence française pour la biodiversité.
Les câbles métalliques qui attachent les pneus entre eux, il y a la corrosion, donc ils se cassent et les pneus commencent à se balader, donc à abîmer les fonds marins parce qu'ils peuvent partir dans des herbiers de Posidonie, qui sont des fleurs qui sont au fond de la mer et très importantes pour l'écosystème.
Cette restauration des fonds marins va s'échelonner jusqu'en 2020. Ces vieux pneus doivent être déchiquetés et recyclés.
Le reportage de Sandy Dauphin. Le soleil devrait dominer sur la majorité du territoire aujourd'hui, après la dissipation des brumes matinales de l'Île-de-France au Val-de-Loire. De la pluie en revanche sur les côtes de la Manche. Pour les températures, ce matin, 14 degrés sur le nord, 16 à Orléans, 17 à Bordeaux, 24 degrés à Marseille. Cet après-midi, 19 degrés à Paris, jusqu'à 28 degrés au bord de la Méditerranée. C'est la fin de cette édition préparée avec Emmanuel Faucillon.